Et le président du Shift Project est l'invité du Mageco ce samedi. Bonjour Jean-Marc Jancovici.
Bonjour.
Le Shift Project, c'est un think tank financé par de l'argent public et privé et qui réfléchit à une seule question, comment décarboner l'économie et la société. Mais aujourd'hui, ça n'est justement pas le sujet qui obnubile les Européens. Tout au contraire, les 27 sont en train de chercher du pétrole, du gaz, du charbon, pourvu que ça ne soit pas russe. Et ils créent d'autres circuits d'approvisionnement, comme par exemple ce qu'on vient de voir avec les États-Unis cette semaine. Jean-Marc Jancovici, voici la question. Avez-vous peur que la transition écologique soit victime de la guerre en Ukraine et qu'on se dise « le climat, ça peut attendre » ?
Ça dépend beaucoup de la manière dont on va réussir à comprendre que le climat et la dépendance aux combustibles fossiles, c'est deux facettes ou c'est deux organes du même éléphant. Vous connaissez la blague sur l'éléphant, là.
Je suis pas sûre.
Non, c'est vrai, quelqu'un touche la patte en disant l'éléphant, c'est un gros cylindre rond. Quelqu'un touche la trompe en disant, c'est les aveugles, hein. Touche la trompe en disant, c'est un petit cylindre fin. Quelqu'un touche l'oreille en disant, non, l'éléphant, c'est une grande feuille plate, etc. Donc là, ça va beaucoup dépendre de la manière dont on va voir le problème. Si on accepte de comprendre que la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions de CO2, c'est l'entrée et la sortie d'un même sujet, on peut éventuellement se dire qu'il est temps d'accélérer sur la décarbonation de l'économie parce que, en fait, changer de fournisseur, c'est une solution très transitoire. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, plus de la moitié des fournisseurs de pétrole de l'Europe sont en déclin de production géologique, c'est-à-dire qu'ils ont passé leur pic historique de production. La Norvège a passé son pic de production, la Grande-Bretagne a passé son pic de production, toute l'Afrique a passé son pic de production, la Russie, on sait maintenant qu'elle a passé son pic de production en 2019. Donc il y a un certain nombre de pays qui ont passé leur pic et on ne peut pas indéfiniment se retourner vers d'autres en disant il y en aura toujours autant, de toute façon.
Est-ce que vous avez entendu ceux qui, cette semaine, là, il y a quelques heures, disent encore « Ah oui, mais alors, Jean-Marc Jancovici, la France, ça serait la deuxième réserve de gaz de schiste derrière la Pologne en Europe, ça serait le moment de forer. » Vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'on peut toujours trouver plus.
Bah oui, il y a aussi des gens qui pensent que la Terre est plate. Quelle crédibilité ont ces gens-là ?
Alors, ça a l'air d'être des experts, hein, puisque apparemment...
Ça a l'air, mais je vais vous reposer la question que j'ai posée à un de vos confrères il y a deux ans dans cette maison. Quelle est la définition d'un expert ?
Bon, alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous le savez, vous, sur ce gaz de schiste en France ?
On sait qu'il n'y a pas eu de forage. Ce qu'on sait, c'est que... Alors, reprenons la nomenclature. En fait, gaz de schiste, c'est une expression impropre. C'est gaz de roche-mère. Au moment où le pétrole et le gaz se forment, ça se forme dans une roche-mère sous terre. C'est la tectonique des plaques qui enfouit des restes de vie organique avec des sédiments minéraux. Et tout ça est cuit par la géothermie quand c'est suffisamment enfoui et ça forme du pétrole et du gaz. Dans une roche-mère perméable, ce pétrole et ce gaz vont migrer et s'échapper. Et dans une roche-mère imperméable, ils vont y rester prisonniers. Et donc, éventuellement, en allant fracturer la roche-mère, c'est ça le principe de la fracturation hydraulique, on va récupérer ces hydrocarbures et les faire sortir.
Qui est interdite en France.
Qui est interdite en France, mais on va les... Alors, d'abord, il faut qu'il y ait une roche-mère. Donc ça, on est sûr en France qu'il y a une roche-mère. Après, il faut qu'il y ait encore du gaz et du pétrole dedans, parce que le gaz et le pétrole ont très bien pu migrer et s'échapper de la roche-mère. Pour ça, il faut aller voir, il faut aller faire des forages exploratoires. Et si jamais il y a du pétrole et du gaz, alors pour l'exploiter, il faut se retrouver dans un endroit dans lequel il faut faire des puits en quantité considérable, des dessertes en quantité considérable, donc des pistes en surface, parce que vous n'allez pas faire un réseau d'oléoducs en face de chaque puits. Les puits ont une durée de vie beaucoup trop courte. Et aux États-Unis, ça marche bien parce qu'il n'y a pas de sujet d'expropriation. Comme vous le savez probablement, le droit minier américain, c'est que vous êtes propriétaire du sous-sol jusqu'au centre de la terre, quand vous êtes propriétaire du sol. En France, dès que ça dépasse 10 mètres de profondeur, c'est plus à vous, c'est à l'État. Donc s'il y a du pétrole dans le fond de votre jardin à 20 mètres de profondeur, ce n'est pas une bénédiction pour vous, c'est une malédiction parce qu'éventuellement, on vous exproprie pour avoir le droit d'exploiter le pétrole. Donc ça veut dire en France que l'exploitation des hydrocarbures de roche-mère signifierait des expropriations par milliers, ça signifierait des puits par dizaines de milliers, ça signifierait, etc.
Cette hypothèse, vous n'y croyez pas
J'y crois modérément, on va dire. Bon. Et à supposer qu'il y ait du pétrole et du gaz de schiste.
Alors,
ce qui n'est pas du tout sûr. Il y a une roche-mère, ça c'est sûr, qu'il y ait du pétrole et du gaz dedans.
Et nous, on a la réponse. Jean-Marc Jancovici, je reviens quand même à la situation actuelle. L'embargo sur le gaz et le pétrole russe, alors ça a été encore un sujet d'actualité au G7, au Conseil européen. On voit bien que les pays, les 27, ne sont pas unis sur la question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ils en seront capables de faire cet embargo sur les fossiles russes et quand ?
Alors, un jour, d'ici à ce que le Soleil engloutisse la planète Terre dans 5 milliards d'années, c'est sûr que oui. Maintenant, demain matin, c'est sûr que non. Quand on regarde la part de la Russie dans les approvisionnements européens en hydrocarbures, c'est 30% de notre pétrole, dans l'Union européenne, et c'est quasiment 40% de notre gaz. Alors, consommer beaucoup moins de gaz, on pourrait, à la condition d'accepter d'avoir froid, puisque plus de la moitié du gaz en France, par exemple, sert dans le chauffage. Donc, si on arrête de chauffer les bâtiments, on a froid, on se pèle, on met des pulls, on prend plus de douche ou des douches froides, mais ça passe. Pour le pétrole, donc voilà, c'est ça la condition de l'embargo.
Et donc, tout ce qu'on est en train de faire là pour créer des nouveaux circuits d'approvisionnement, de toute façon, ça ne sera pas opérationnel. On ne peut pas couper dans les prochains jours.
À 40% du gaz, non. 40% voilà. Du gaz. Quand vous regardez les analyses qui sont faites par des techniciens du secteur, des sociétés, j'ai envie de dire, qui fournissent de la donnée sur le pétrole et le gaz comme étant leur métier, quand elles regardent où est-ce qu'on pourrait se retourner auprès d'autres fournisseurs alternatifs, il n'y a pas de quoi compenser l'apport du gaz russe. Pas à bref délai. Le deuxième gros sujet, c'est le pétrole. La Russie nous fournit 30% de notre pétrole. Et là, c'est pareil, on pourrait s'en passer à condition de supprimer la moitié de la mobilité en voiture. Bon, est-ce qu'on est prêt à le faire? Je sais pas.
Mais là, ça a l'air plus facile de trouver des fournisseurs sur le pétrole. C'est pas comme le gaz.
Non, c'est pas plus facile parce que la Russie est, alors je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième producteur, ça doit être le deuxième actuellement producteur de pétrole dans le monde, à peu près à égalité avec l'Arabie Saoudite. Donc se passer totalement d'un fournisseur de cette taille, non, c'est pas facile. Sans compter que la production mondiale de pétrole aujourd'hui, elle est plutôt stable. Elle augmente pas beaucoup et elle va même se mettre à diminuer de façon significative dans les années qui viennent. Donc, se retourner ailleurs pour trouver la même quantité de pétrole, non. Et de toute façon, si on veut être cohérent avec l'accord de Paris, le sujet, il est de baisser de 5% par an la quantité de gaz et de pétrole qu'on consomme. Donc, le principe même de se retourner ailleurs pour en trouver la même quantité, c'est totalement contradictoire avec les engagements qu'on a pu prendre au titre du climat.
Et c'est tout l'objet de ce livre qui s'appelle « Le plan de transformation de l'économie française ». C'est publié chez Odile Jacob, c'est le Shift Project, donc votre think tank, ses auteurs qui l'ont rédigé. Et puis c'est aussi l'objet de cette BD que vous signez avec le formidable Christophe Blin, qui l'a illustré, et qui s'appelle « Le monde sans fin » chez Dargo. Là, vous dites, comment est-ce qu'on va faire? Quels sont les plan pour avancer vers pour la neutralité carbone. Et Jean-Marc Jancovici, vous avez une certitude, c'est que la seule énergie qui peut permettre à nos sociétés de tourner à peu près comme avant, c'est le nucléaire.
Alors, avant le nucléaire, en fait, l'essentiel du plan de transformation de l'économie française repose sur ce qu'on appelle de la sobriété. Alors, la sobriété, c'est quoi? C'est des économies d'énergie que vous faites en acceptant, en souhaitant, en désirant utiliser moins de quelque chose. Je prends un exemple. Si vous mangez un peu moins de viande rouge, eh bien vous économisez l'énergie pour fabriquer les engrais, pour faire pousser les céréales que vont manger les animaux. Vous économisez un peu le tracteur qui va être utilisé pour faire pousser, etc. Vous économisez un peu de camion pour transporter les végétaux qui vont ensuite nourrir les animaux, etc. Voilà un exemple.
Et vous faites ça pour tous les secteurs.
Et on fait ça pour tous les secteurs.
Mais alors, oui.
Si vous acceptez de dépenser votre argent dans l'isolation des bâtiments plutôt que dans l'acquisition de du dernier smartphone, alors en fait les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes, mais c'est juste pour illustrer, vous pouvez baisser la quantité d'énergie qu'on utilise dans les bâtiments, quelle que soit la nature de l'énergie qu'on utilise par ailleurs. Oui. Si on accepte d'acheter moins d'objets, du coup, on a besoin de moins d'énergie pour fabriquer ces objets et on a besoin de moins de machines. Et les machines, c'est les machines qui utilisent l'énergie pour fabriquer les objets, etc. Donc l'essentiel du plan de transformation de l'économie française repose sur ce qu'on appelle la sobriété parce qu'on pense que les mesures strictement techniques, soit dans les secteurs industriels ou des transports, soit dans le basculement des sources d'énergie qu'on utilise, des combustibles fossiles, c'est-à-dire pétrole, gaz, charbon, vers les sources décarbonées, c'est-à-dire nucléaires et renouvelables, ne peut pas aller à la bonne vitesse, ça ne peut pas le faire, comme on dit, pour conserver la même consommation qu'aujourd'hui sans émettre de gaz à effet de serre.
Une question sur la transformation, la sobriété dans l'agriculture. Vous dites que le but du jeu, c'est de diminuer d'un tiers la production de lait et d'œufs, de diviser par deux les produits de la pêche, diviser par trois les productions de viande bovine, porc et volaille. Donc on comprend qu'il va falloir produire moins dans ce plan, alors qu'il y aura plus de bouches à nourrir et qu'on veut plus de souveraineté alimentaire. Est-ce que ça n'est pas une erreur de stratégie ?
Je ne vois pas le lien avec la souveraineté alimentaire. Plus de bouches à nourrir, c'est une très bonne chose qu'on diminue la production de viande, parce que du coup, ça augmente la quantité de céréales, enfin, ou de produits végétaux, plus exactement, qu'on peut manger directement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les cultures de maïs en France sont destinées à la nourriture animale. Tous les pâturages sont destinés à la nourriture animale. Alors, certains ne seraient pas valorisables en agriculture, en montagne, etc. Et enfin, une bonne partie du blé est cultivé pour l'alimentation animale. Et puis, il faut rajouter à ça tout ce qu'on cultive pour l'alimentation de nos voitures, que dans le plan de transformation de l'économie française, on pense qu'il n'est pas pertinent de continuer à faire. C'est un autre sujet.
En fait, le mot sobriété, c'est un euphémisme pour décroissance. Et il y a une personne qui, dans le débat politique, l'a porté dernièrement, c'était Delphine Batho, à la Primaire écologiste, et elle a perdu. Est-ce que vous avez le sentiment que cette sobriété ou cette décroissance de nos modes de vie, les Français sont prêts à l'accepter ?
Ce qu'on a constaté au Chiffre Project, c'est que quand on prononçait le mot décroissance, paradoxalement, le premier truc qui fait peur aux gens, c'est chômage. C'est-à-dire que quand on dit décroissance, avant même de penser « Ah, ça va être la catastrophe parce que je vais rouler un peu plus souvent en vélo électrique et un peu moins souvent en voiture, ou bien je m'achèterai un peu moins souvent des vêtements en solde », les gens surtout, ils ont tellement assimilé croissance et emploi, croissance et chômage, on va dire, que quand on leur dit, quand on leur dit décroissance, le truc qui les tétanise, c'est mais qu'est-ce que je vais faire comme boulot ?
Et là, vous dites non, il y aura du travail.
Alors, ce qu'on a dit, nous, c'est qu'on a pris le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'on a dit, si on veut... En fait, les émissions de gaz à effet de serre, c'est un sujet de physique. L'énergie, c'est un sujet de physique. Donc, nous, on a commencé par prendre le problème sous l'angle physique. On a dit, on va s'occuper de trucs qui se mesurent en tonnes, en litres, en mètres carrés, etc. Et on va regarder, avec les ressources qui sont à notre disposition, de sol, de métaux, d'énergie, etc., et les quantités limitées de CO2 qu'on peut mettre dans l'atmosphère, comment est-ce qu'on peut organiser le système pour que ça fonctionne à peu près ? Et pour organiser le système, de quelles compétences on a besoin ? Donc on a regardé le sujet des compétences et on a regardé le sujet des ressources. Et on a dit, on parlera argent dans un deuxième temps. Et ce qu'on a défini comme emploi dans cette affaire, c'est des emplois qui nous sont nécessaires, donc des compétences qui nous sont nécessaires pour que le système puisse s'opérer. Et si on ne parle pas d'argent, alors évidemment, tous les gens qui écoutent vont dire comment ça, il ne parle pas d'argent, il n'y a pas de fin de mois, lui. Bon. Mais si on ne commence pas par parler d'argent, pour être plus précis, on se rend compte que le système qu'on imagine, ce n'est pas nécessairement un système moins riche en emplois. Par contre, c'est clair que ce n'est pas les mêmes emplois.
Et c'est quand même moins riche en bien-être. C'est quand même... En tout cas, la société de consommation à laquelle on est habitué. Vous dites que c'est un petit peu différent. C'est beaucoup différent.
Alors, est-ce que l'obésité, c'est du bien-être ? Est-ce que pouvoir courir les soldes en permanence, c'est du bien-être ? Est-ce que changer son smartphone tous les deux ans, c'est du bien-être ? Il y a quand même un certain nombre de choses pour lesquelles le bien-être, c'est discutable. Et par ailleurs, vous avez un certain nombre de gens qui, par exemple, aiment bien faire un peu d'exercice le matin, et donc leur définition du bien-être, c'est que si on leur met à leur disposition des pistes cyclables où ils ne se sentent pas menacés par les voitures, faire un peu de vélo, plutôt que d'y aller en voiture, ils ne trouvent pas nécessairement ça mal.
Donc, mais il va falloir quand même dans ce livre, quand on vous lit précisément, il y a du sacrifice quelque part.
Alors, il y a du culturel, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments dans cette affaire qui sont des éléments de nature culturelle. Il faut effectivement travailler sur ce qu'on appelle le bien-être. C'est quoi, au fond, le bien-être ? Est-ce que ce goberger tant et plus, c'est le bien-être ? Ou est-ce qu'on peut lui donner un autre sens ?
Et ça mérite un débat politique, en effet.
C'est un débat politique.
J'en viens néanmoins à ma question sur le mix énergétique, parce que vous l'avez contourné, mais c'est le moment d'en parler. Vous avez une certitude, la seule énergie qui peut permettre à nos sociétés de tourner à peu près comme avant, c'est le nucléaire.
Alors, le nucléaire présente la caractéristique de ressembler un peu aux combustibles fossiles, mais de ne pas émettre de CO2. Si je reprends le cours de l'histoire, en fait, il y a deux siècles, le monde était 100% renouvelable. Enfin, deux siècles et demi. Il était 100% renouvelable. La marine avançait avec le vent, les moulins tournaient avec le vent et avec l'eau, les transports terrestres étaient faits avec des animaux qui broutaient de l'herbe. Enfin, tout ça était renouvelable. Et la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, celle qui permet justement d'avoir des vêtements pour pas cher, des maisons pour pas cher, de se transporter pour pas cher, c'est la civilisation fossile. On est sorti des renouvelables pour basculer dans les énergies fossiles. Si on pouvait garder la civilisation industrielle avec juste des énergies renouvelables, alors, on ne comprend pas pourquoi cette civilisation industrielle n'aurait pas émergé du temps des énergies renouvelables. Il y avait des gens parfaitement intelligents qui auraient très bien pu... Donc, mon credo, c'est que, en fait, on ne peut pas garder la civilisation industrielle avec juste des énergies renouvelables. Même le petit bout qu'on pourrait garder, il est vraiment tout petit. Et quelque chose qui ressemble aux énergies fossiles, parce que c'est pilotable et parce que c'est dense, c'est les deux caractéristiques des énergies fossiles, c'est le nucléaire. Alors ça présente des inconvénients, certes, mais tout ce qu'on fait dans la vie présente des inconvénients. Et la question, c'est de savoir si les avantages... Enfin, s'il y a des inconvénients, on accepte de les payer compte tenu de l'avantage que ça procure. Donc, par exemple, la voiture, ça procure beaucoup d'avantages et du coup, on accepte de le payer de l'inconvénient qui est 3000 morts par an.
Mais même sans parler des inconvénients, et je pense que vous pensez aux déchets, vous pensez aux accidents nucléaires, il y a, c'est ce que disait Cédric Philibert dans le reportage, ce scientifique, il dit c'est quand même un pari incertain, on ne sait pas faire les EPR de deuxième génération avant 15 ans.
Ce n'est pas qu'on ne sait pas, c'est aujourd'hui, c'est qu'on on se répète qu'on ne sait pas. Quand on a construit le parc actuel, on l'a construit raisonnablement vite. On l'a construit en quoi ? En 25 ans. Et on l'a construit donc assez rapidement et ça fonctionne. Donc l'idée qu'on ne pourrait pas refaire la même chose, ça reste à démontrer. Au moment où on l'a construit, on est parti d'une situation de départ dans laquelle il n'y avait pas des centaines de milliers de gens qui savaient faire. Donc l'idée qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas répéter ce genre d'opération parce que ces dernières années, on a fait du stop and go sur la filière, essentiellement au gré des hésitations politiques et des alternances politiques, je pense qu'on n'est pas dans le même contexte. Donc c'est le nucléaire, en fait, c'est deux barrières. C'est des barrières de compétences. C'est une barrière de compétences pour faire et c'est une barrière de compétences pour réglementer intelligemment.
Et quand je vous entends, et surtout quand je vous lis, parce que vous êtes un peu sévère, même très sévère avec les énergies renouvelables, vous n'êtes pas fan ni de l'éolien, ni du solaire. Est-ce que vous considérez qu'on perd du temps et de l'argent à miser sur les énergies renouvelables ?
Alors, les énergies renouvelables, il faut savoir que dedans, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire qu'on a tendance à appeler énergies renouvelables uniquement le solaire et l'éolien. Mais enfin, les énergies renouvelables, c'est aussi la biomasse, c'est aussi l'hydroélectricité, c'est aussi la géothermie. Donc, il n'y a pas que l'éolien et le solaire dans l'électricité.
Est-ce que vous considérez...
une perte de temps en France, ça je le redis, c'est de vouloir baisser le nucléaire pour le remplacer par du solaire et de l'éolien. Ça a été une perte de temps et d'argent.
Mais donc aujourd'hui, la stratégie qui serait de mettre plus d'éoliennes et plus de panneaux solaires, est-ce que Jean-Marc Jancovici, c'est-à-dire à vous, est d'accord et considère que c'est une bonne stratégie ?
Alors, ce que je considère aujourd'hui, c'est qu'il y a un point... Il faut garder autant de nucléaire qu'on peut dans le parc actuel. Il faut recommencer à construire des réacteurs aussi vite que possible. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le terme de bouclage ? En plus, on va dire, si on n'est pas capable de construire suffisamment de réacteurs pour fournir notre électricité. Et aujourd'hui, je considère, moi, que cette question, elle n'a pas été suffisamment instruite. Parce que l'éolien et le solaire, par exemple, aujourd'hui, demandent, mais comme le nucléaire, mais beaucoup plus, des métaux pour construire les collecteurs. Il faut des métaux pour construire les éoliennes, il faut des métaux pour construire les panneaux solaires, il faut du cuivre pour construire les réseaux, etc. On dit souvent que l'uranium n'est pas en France, mais aucun de ces métaux pour construire les dispositifs de collecte de NR n'est en France. 90% de la fabrication de panneaux solaires aujourd'hui est en Chine. Donc, si on ne veut pas dépendre de l'étranger, aujourd'hui, il ne faut pas faire de solaire. Je provoque un peu, mais bon. On dira, n'a qu'à le faire chez nous. OK, mais c'est un pari. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, l'avenir n'est fait que de paris. Donc Cédric Philibert dit il y a un pari gagnant, un pari perdant. Moi je dis oui, je pense que la situation est malheureusement moins évidente que ça.
Mais
je pense qu'il y a des risques, dans toutes les éventualités qu'on peut prendre. Et donc quand on dit par exemple qu'on va fortement augmenter la part d'énergie non pilotable, ça ne fonctionne.
Ça veut dire les énergies renouvelables, oui.
Oui. L'éolien et le solaire.
Oui.
Non, parce que l'hydroélectricité est parfaitement pilotable et c'est renouvelable. Mais c'est la première source de production renouvelable en France.
Jean-Marc Jancovici, quand l'Agence internationale de l'énergie et quand le RTE qui a fourni ce rapport avec 6 scénarios dit si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut plus d'éoliennes et plus de panneaux solaires, vous pensez qu'ils n'ont pas obligatoirement raison.
Alors, RTE,
vous pensez qu'ils ont tort ?
Non, je ne pense pas qu'ils ont tort. Je pense que RTE s'est mis une limite à 50% de nucléaire, qui est une limite qui repose sur leur perception de l'effort que le pays est prêt à faire pour le moment. Ce que moi je pense, c'est que l'Ukraine, c'est une crise parmi 20 qu'on va avoir dans les décennies qui viennent. Donc aujourd'hui, on a fait des plans pour un avenir tranquille. On n'a pas vérifié que ces plans, ils passaient toujours la rampe dans un avenir beaucoup plus rock'n'roll. Je sais que RTE avait envie, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais ils avaient envie de travailler sur un scénario s'appelant mondialisation contrariée. Bon, bah, mondialisation contrariée, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est plus difficile de se mettre à avoir les métaux et les collecteurs pour faire des ENR. C'est un scénario dans lequel les interconnexions sont plus difficiles à construire et c'est un scénario dans lequel nos voisins ne font pas nécessairement ce qui nous arrange pour nous fournir de l'électricité quand il n'y a pas de vent et de soleil chez nous. Donc, il faut regarder toutes ces éventualités et aujourd'hui, je pense qu'on ne les a pas suffisamment bien explorées pour être capable de faire une hiérarchie des risques qui soit totalement instruite. Voilà ce que je dis.
Jean-Marc Jancovici, le président du Shift Project, merci d'avoir accepté l'invitation dont on n'arrête pas l'écho.